ce matin, nous terminons notre petite mini-série sur l'Église. Donc, il y a 2 semaines, Nathan, qui n'est pas là ce matin parce qu'il est à Londres, il prêche dans une autre église à Londres, il a parlé de nos braises, c'est-à-dire nos petits groupes, groupes de maison, groupes de vie. Et puis David, dimanche dernier, il a présenté le culte. Et c'était merveilleux, je vous encourage à réécouter les deux prédications-là. Et ils m'ont demandé de terminer la série en parlant de l'Église et de la, c'est leur mot, ce n'est pas le mien, la membriété. Franchement, je suis anglais, mais je doute que ça existe dans le dictionnaire français. Mais quel beau mot! Et c'est super pour décrire être membre, faire partie de l'Église, donc membriété. J'ai posé une question dans ma prière ce matin, en fait, pendant la louange. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire ce matin dans nos cœurs? Et j'ai eu une réponse. Et la réponse, c'est celle-ci. Je veux que vous tombiez éperdument amoureux de l'Église, l'épouse de Jésus-Christ, mon Fils. Je pense que c'est ce que Dieu veut faire en nous ce matin. Et pour nous, c'est un grand privilège de pouvoir parler de l'Église. C'est une passion à moi depuis très très longtemps. Donc c'est avec grand plaisir que j'accepte leur invitation d'en parler. Ok. L'Église locale, nous, Fireplace, devrait-elle avoir des membres? Peut-être certains diraient « Bah oui !» Et d'autres « Bah non !» Et d'autres encore « Je sais pas. » Qu'en dit la Bible doit être la question que nous posons. Et je constate que chez nous, les chrétiens, je dirais occidentaux, il y a des attitudes qui sont vraiment de l'indépendance qui nous façonnent. Et j'aimerais parler de plusieurs. Quelqu'un dit, moi, je vais à l'église. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas un lieu, une salle, un local, un bâtiment. C'est quoi? C'est le peuple choisi, aimé de Dieu très haut. Et le mot grec « ecclésia », d'où vient bien sûr le mot français « église », il y a plus d'une centaine de fois que ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament. Et chaque fois, ça ne parle pas d'un local. Donc je ne peux pas aller à l'église. J'en fais partie parce qu'il m'a sauvé. Donc je n'utilise pas cette expression-là. Deuxième chose, moi j'assiste au culte, mais franchement je suis trop pris d'en faire plus. Ouh, ok. Mais l'église locale est beaucoup plus que le culte dimanche matin ou dimanche après-midi, ou même la braise mercredi ou jeudi soir. L'église, comme je viens de dire, c'est le peuple de Dieu. Quelqu'un dit peut-être, oui, je vais au culte tant que je n'ai rien de plus important ou plus pressant à faire. Et du coup, pour l'assiduité, la fidélité, etc., c'est un peu comme ça pour cette personne-là. Parce que toujours, il trouve quelque chose d'autre à faire. Et la Bible dit, c'est dans Hébreux chapitre 10, « N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. » Et peut-être quelqu'un d'autre a une attitude un peu, « Oui, je suis membre, du club de tennis et l'association jazz. J'ai un abonnement au cinéma et je vais à l'église. C'est un peu comme, oui, être membre d'une église, c'est un peu comme ça. On partage un peu les mêmes intérêts et on se voit de temps en temps et on s'amuse ensemble. C'est le peuple de Dieu très haut. Et quel privilège. Moi, je suis devenu chrétien à 14 ans. Et pendant des années, je n'avais pas très d'amour pour l'Église. Puis, il est arrivé un jour où franchement, Dieu m'a montré son amour pour son Église. Et moi, je suis tombé amoureux de son projet dont je faisais partie déjà. C'est pour nous tous. J'essaie de suivre Jésus, mais je ne veux pas que l'Église s'immisce trop dans ma vie. Ah, c'est très répandu, cette attitude-là. Et donc cette personne-là, il prendra des décisions importantes, comme où habiter, sans aucune référence à l'Église locale. Ça, je ne trouve pas très biblique. Je peux vous témoigner d'une personne qu'on connaît qui a choisi une université à l'âge de 19 ans sur la base de où se trouvait l'église locale qu'il voulait. Wow. Ça, c'est différent. Donc pour lui, c'était église locale. Et oui, bien sûr, il y a des études, absolument. Et Dieu l'a béni. Tristement, nous, on est un peu infectés par un virus, moi je dois dire plutôt occidental, de l'indépendance. Nous croyons que nous avons toute l'autorité pour conduire nos vies. Le poème que je n'aime pas trop, qui s'appelle Invictus, William Henley, termine. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Le chrétien, il ne peut pas le dire. Je ne suis pas le maître de mon destin. C'est lui qui m'a sauvé, qui m'aime. Donc je veux soumettre ma vie à sa parole et à sa volonté. Bien sûr, les églises, ici en France, nous avons des associations 1901, 1905, etc. Et les églises ont des assemblées générales, des membres, voilà, bien sûr. Et c'est très important de respecter et d'observer la loi du pays, absolument. Mais je ne veux pas parler ce matin du fait d'être membre d'une association de l'église. Non, je parle de l'église. Je parle du peuple de Dieu. Romains 12, verset 4. De même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, nous formons un seul corps en Christ et sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Donc, être membre d'une église, il s'agit de quoi? Et à mon avis, il s'agit d'un engagement à quatre niveaux, à quatre choses. Un engagement au chef de l'église, Jésus. Ça vient en premier. Un engagement à la vision et aux valeurs de l'église. Un engagement aux gens de l'église et aux leaders de l'église. Quatre. Donc, je vais en parler maintenant. Commençons par le chef de l'Église, un engagement à lui. L'Église de mon enfance, était en Angleterre, était très libérale. Et je ne saurais pas dire combien de ses adhérents étaient vraiment chrétiens, étaient vraiment nés de nouveau, étaient vraiment sauvés. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que l'évangile de Jésus-Christ n'y était jamais prêché. Il va peut-être sans dire, mais il est capital qu'un membre d'une église locale soit personnellement et soit profondément ancré en Christ. Christ son Sauveur, Christ son Seigneur. Et comment savoir alors si c'est le cas pour moi? Aujourd'hui, je parle à une trentaine de personnes ici. J'en connais la majorité, la plupart. Comment savoir si je suis attaché, si je suis engagé au chef de l'Église? Selon l'apôtre Pierre, qui prêche, pour prêcher le jour de la Pentecôte, à la fin de sa prédication, il y a eu un échange entre le peuple avec leurs questions et sa réponse. Donc, acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, cette prédication, ils eurent le cœur vivement touché et dirent, « Frères, que ferons-nous ?» Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et ceux qui acceptèrent sa parole se firent baptiser et en ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des disciples. Donc, selon Pierre, il s'agit de se repentir, il s'agit de croire, ils avaient le cœur vivement touché. Il s'agit de se faire baptiser et de recevoir le Saint-Esprit. Donc, je peux me poser les mêmes questions. Est-ce que c'est le cas pour moi? Et si c'est le cas pour moi, je suis attaché à lui par sa grâce. J'ai un engagement auprès de Jésus-Christ, le chef de l'Église. Et si c'est le cas pour vous, génial! Pourtant, pour les 3000, ça ne suffisait pas. Leur repentance, leur foi, leur baptême, la venue du Saint-Esprit, et ils ont été ajoutés à l'Église locale qui venait de naître. Et cette cinquième partie, c'est super important. Sinon, on reste seul dans la foi. Mais Dieu veut qu'on soit ajouté à son Église, comme les 3000. Deuxième chose, engagé à la vision et aux valeurs de l'Église. Le psaume 133 parle de l'unité. Oh, qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Et l'unité, comme vous le savez tous, et moi je le sais aussi, c'est tellement important pour une église locale. Et donc la question doit se poser, en fait toujours, est-ce qu'on partage la même vision et les mêmes priorités, valeurs de l'église locale? Et David et Nathan, les anciens ici à Fireplace, ils invitent, comme vous venez de voir, les nouvelles personnes à un apéritif d'accueil et il se trouve que le prochain, c'est samedi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir un peu un moment pour partager un peu la vision et les valeurs de cette église qu'ils aiment beaucoup. Donc, ils vont parler sans doute de la parole, la place de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, la mission, le discipulat, etc. Et si je suis vraiment d'accord avec la vision et les valeurs d'une église locale, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, des effets réels. Pas seulement dans mon cœur, mais dans ma vie. Et pendant quelques instants, j'aimerais regarder deux de ces effets. La joie de donner et la joie de servir. Est-ce que je suis vraiment engagé à la vision et aux valeurs de l'Église? Ça se voit en fait dans ce que je fais. La joie de donner. Je n'ai pas le temps, évidemment, ce matin pour vous donner un enseignement détaillé sur ce que dit la Bible au sujet de nos finances, par exemple. On donne beaucoup de choses en plus de nos finances. Mais voici un petit aperçu de ce que je crois. L'Ancien Testament, ils donnaient 10% de leurs revenus, de leurs produits, c'est-à-dire la dîme. Et c'était pour soutenir le ministère spirituel local, c'est-à-dire les sacrificateurs, les prêtres, les lévites. Abraham, il a donné à Melchizedek, Genèse. Le peuple de Dieu donne la dîme au ministère spirituel local selon la loi de Moïse. Et la dîme est confirmée par les prophètes, notamment Ésaïe, Malachie, etc. Donc, en bref, l'Ancien Testament parle de la dîme. Et puis, on tourne la page et on arrive en Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc. Qu'est-ce qu'on voit là? Jésus, il affirme la dîme sans qu'il la prêche de manière ouverte. Paul, il affirme l'importance de soutenir le ministère spirituel local. Et nous voyons aussi que les valeurs que moi j'appelle les valeurs de la grâce, les principes de la grâce, semblent remplacer les directives de la loi « il faut donner 10%. » Donc on a la grâce, sans que la dîme soit balayée. 2 Corinthiens 8, verset 7, « Valeur de la grâce ». Le contexte de ce verset, c'est donné. De même que vous, les Corinthiens, vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, en amour, cherchez aussi à exceller dans cette œuvre de grâce, générosité. Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et toujours dans 2 Corinthiens, comment devrais-je donner? Selon Paul, c'est par la joie et avec la joie, plutôt qu'une visite chez le dentiste pour se faire arracher quelque chose. D'accord, ok, je vais donner. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce que ça me décrit? Et on donne avec foi aussi, bien sûr que oui. Dans l'Ancien Testament, on a les deux frères, Abel et Caïn. Et on est en Hébreux chapitre 11. L'auteur de cet épître, il explique que la foi d'Abel est vue dans ce qu'il donne. Donc la parole de Dieu est pour nous encourager à donner avec la foi. Et en pratique, je peux conclure. Bien que le Nouveau Testament n'insiste pas sur la dîme, le 10%, à mon avis, reste pour beaucoup une consigne très utile. Et il semble que la Bible veuille qu'on donne sa dîme au ministère spirituel local, c'est-à-dire l'Église locale. Plutôt peut-être que de diviser sa dîme entre plusieurs bonnes causes, œuvres missionnaires, caritatives, ou quand l'Église quand les responsables choisissent d'avoir une offrande spéciale pour tel ou tel but précis, on donne, mais en fait, on donne au-dessus, on donne en dehors de sa dîme. La dîme, c'est pour le ministère. Donc, pour moi, il y a des questions très simples qui se posent, pour moi et pour vous. Est-ce que moi, je suis d'accord avec ça? Et si oui, est-ce que je veux que mes actes soient en ligne avec ce que je crois? D'accord? Deuxième chose, la joie de servir. Parce que ça montre où on en est par rapport aux valeurs de l'Église. Soyez, Romains 5, verset 13, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Et vous savez que l'Église est le corps de Christ. Et puisqu'on est un corps, nous avons des membres. Et chaque membre aura un rôle important à jouer. Qu'il soit visible ou pas. Donc Paul, écrivant encore une fois à l'église à Corinthe, il dit, 1 Corinthiens 12 maintenant, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles que dont nous prenons le plus grand soin et que nous traitons avec des égards particuliers. On est tous membres du corps de Christ. Et du coup, on a un rôle. Pourquoi donc voulons-nous servir? Est-ce que c'est parce que la Bible nous le dit? Oui, mais ce n'est pas tout. La motivation, finalement, elle ne vient pas d'une loi quelconque. Elle vient parce que tout simplement, Dieu est merveilleux. Et il m'aime. Et son Église est merveilleuse. Et je suis tombé amoureux de son Église. Donc je veux donner, je veux servir. C'est simple. Et maintenant on va regarder, je vais éteindre les lumières parce qu'il y a une vidéo de 3 minutes. D'un avocat anglais qui parle de ce qui s'est passé dans sa vie quand il a commencé à servir dans son église locale. Si vous ne parlez pas anglais, il y a des sous-titrages, merci beaucoup Joe, mais puisque l'écran là c'est petit, si vous n'avez pas une vue excellente, je vous invite à vous approcher pour bien voir. Ok, 3 minutes et puis je continue.
If I'm honest, I never really liked the church. I didn't even really like Christians that much. I used to think of it like a package deal. Like, you get Jesus, and so you get the church and Christians thrown. It's just part of the package. And there are some bits you like Jesus, some bits you don't like so much, just like the church and Christians. Used to find that a bit annoying. But I turned up the church and came through it. I didn't really enjoy going to church. And then one day I was at the back of our church in East London and someone said to me, oh, we need help to run the coffee team. And I was like working like 70, 80 hour week. I'm like, what? And they were like, yeah, Steve, we really need your help running the coffee team on a Sunday. And I was thinking, I'm a barrister, I'm not a barista. Like, I've got a job, I don't need another job to run the coffee team. But I just, you know, sometimes you just can't even think of what to say. So I was like, okay, I'll do it, okay. And I said, why did I do that? So I turn up next week, like, you know, trying to get the cups and everything, get the coffee right. As I handed these cups to people, something really changed in me. I found myself, as I handed coffee to these people, growing in love for them. I was like, these people are amazing. Like, this is this extraordinarily diverse community. It's been gathered from across the area. Probably not another place that looks as diverse and integrated as this. This is a miracle. And then even people I found a little bit more frustrating and complicated, as I handed them their coffee, I kind of grew in love for them. And I kind of basically fell in love with the church. And then I kind of went back to the person who'd asked me to. I said, we need a new coffee machine. We need better beans. We need better mugs. Like, we, come on, these are amazing people. I want this to be the best coffee that they get. You know, they're coming to church on a Sunday morning. I got more and more passionate. I started to build a team to serve coffee on a Sunday morning. I sometimes say, making coffee changed my life because I fell in love with the Church of Jesus Christ. I didn't realize why it was special. I didn't realize why it mattered. And as I made coffee for people, I suddenly realized, oh, the church is like the bride of Jesus Christ. It's like the thing he gave himself for. Like, the church is God's plan for the salvation of the world. There's no plan B. And God is going to build his church, and the gates of hell will not prevail against it. So, like, God is putting all his eggs in the church basket. And I realized over those few weeks, there's a beautiful thing here. Yes, it messes up. Yes, it makes mistakes. You'll never find a perfect church, but it's a beautiful thing. And I thought, that's what I want to spend my life building.
C'est pourquoi on sert. Parfois, c'est difficile pour quelqu'un de se sentir vraiment impliqué, engagé dans une église locale. Servir, c'est un moyen de le découvrir. Je vous encourage. Chez nous, le service, c'est un peu, voilà, Dieu peut faire quelque chose parce qu'elle est beaucoup meilleure, par exemple. Côté cuisine, c'est elle. Pourquoi? Parce que si c'était moi, ce serait la cata. Moi, par contre, je m'occupe plutôt du côté finance, etc. Mais il y a plein d'autres choses. Et là, on sert de manière spontanée parce que tout simplement un besoin se présente et on le fait ou on ne le fait pas. Et en fait, c'est la même chose dans une église. Il y a le côté structuré, je fais partie d'une équipe. Il y a aussi le côté spontané. Je vois un besoin, je me lance. Je vois un besoin, je me propose. Et je pense que Dieu veut qu'on on fasse les deux. Le côté structuré, peut-être tu fais partie de l'équipe mise en place, ou vidéo proche, ou sono, ou musique, ou accueil. Il y a plein de choses. Enfant. Mais spontané aussi. On n'est pas une machine. On est un peuple qui aime Dieu et qui est aimé de Dieu. OK, il faut qu'on progresse. Si tu aimerais servir, dans quel domaine? C'est simple. Tu en parles avec les responsables parce qu'ils savent où se trouvent les besoins actuels de cette église. Donc, troisième chose, engager, beaucoup plus court, aux gens de l'église. Si tu choisis Christ par la foi, il est la tête de l'Église, tu dois choisir également son corps, le peuple. David m'a proposé de dire quelque chose à ce moment-là. Donc, si ça ne marche pas, c'est sa faute. Moi, j'ai une femme radieuse. Je ne peux pas dire à ma chère Jill, j'aime beaucoup ta tête, mais franchement, pas ton corps. Ça ne marche pas et ce n'est pas vrai non plus. On ne peut pas dire en tant que chrétien, j'aime la tête de l'Église, Jésus, mais je ne suis pas trop pour le corps de Jésus, l'Église magnifique. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Parce que parfois, ce n'est pas évident. Nous avons tous nos fautes. Supportez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Que tous les membres prennent également soin les uns les autres. Envoyez-vous des messages WhatsApp les uns aux autres. Les uns les autres, toujours, toujours. C'est l'Église locale, l'Église de Jésus-Christ. Et afin de voir si le cœur d'une personne est vraiment engagé, attaché à l'Église locale, aux gens, on peut demander, est-ce que cette personne est déjà dans une Église locale depuis un moment? Ou est-ce qu'elle papillonne un peu? Est-ce que cette personne s'implique dans ce que moi j'appelle l'un l'autrisme, les uns les autres? Est-ce qu'elle s'implique dans ça? Ou est-ce qu'elle reste seule? Est-ce que cette personne s'est faite des amis dans l'Église? Ou est-ce que non? Et est-ce que, en reprenant la prédication de Nathan il y a 2 semaines, est-ce qu'elle fait partie d'une braise, un groupe de vie? Bonne question, à mon avis. Et finalement, l'engagement au leader de l'Église. Les anciens, en fait, c'est la première fois depuis je ne sais pas combien d'années que moi je ne suis pas responsable ancien, etc., dans une église. Ah ben, c'est la liberté, merci Seigneur. Mais quand même, nous avons des anciens ici, Nathan et David, je les aime, ils font un super boulot. Et leur job, ils sont appelés en fait à diriger l'église pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est un privilège énorme de diriger une église locale. Et en même temps, c'est une responsabilité beaucoup plus énorme. Hébreux 13, verset 17. Il y a un verset qu'on, parfois, on ne veut pas trop prêcher dessus. Obéissez à vos conducteurs. Oula. Et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche avec joie. Peut-être un jour, vous pouvez poser la question à David ou Nathan, est-ce que vous avez la joie de me diriger? Et n'écoutez pas ce qu'il dit, regardez le visage. Aucun leader n'est parfait. On est tous d'accord. Ni David, ni Nathan. Ils ne peuvent alors nous promettre de ne pas faire de temps en temps des erreurs. Nous, on est tous humains. Mais ce qu'ils promettent, c'est d'essayer de suivre Dieu et de sa parole. Ça, c'est sûr. Et le soutien de l'Église leur est très, très, très important. Ils espèrent que tous les membres de l'Église se sentiront aimés et qu'ils auront la confiance pour leur parler des questions éventuelles. C'est très important. On est une famille. Et bien que ce soit les anciens qui prennent la responsabilité devant Dieu pour l'Église, nous, on est tous impliqués. Et qui sait? Ça pourrait être toi qui reçois dans la prière quelque chose qui va diriger carrément l'Église. On est tous impliqués. Les anciens prennent la responsabilité, donc tu fais un rêve, Dieu te parle, tu leur vois et tu dis, bah, franchement, j'ai fait un rêve. Et les anciens prennent la responsabilité pour dire, waouh! Absolument, il faut le faire. Ou non, ou pas encore. Mais nous avons une responsabilité de chercher le cœur de Dieu pour l'Église. Tous. Peux-tu vraiment te confier au leader pour les suivre. C'est une question très importante pour la membriété. Et si dans l'avenir, il arrive quelque chose que tu ne comprends pas du tout, ou avec lequel tu n'es pas d'accord, et ça arrive, ce sera très important que tu en parles avec les responsables, choisissant avec sagesse le moment et l'endroit, le lieu pour le faire, et en faisant avec amour. Et si cette chose finalement est super importante pour toi, tu pourras sans problème quitter l'Église. L'Église n'est pas une secte où dès qu'on est là, on est dedans, c'est pour toujours. C'est comme prison. Non, c'est une Église, on est le peuple de Dieu, il y a beaucoup d'autres Églises. Et les responsables sont comme ça. Ils dirigent, mais ils nous tiennent avec une légèreté. Ok, une conclusion. Et moi, et vous, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? L'Église locale est, à mon avis, la chose la plus grande, la plus importante sur toute la planète. C'est une déclaration assez... n'est-ce pas? Mais si tu lis mon livre préféré, tu seras d'accord. Et si tu tombes éperdument amoureux de l'Église, tu seras d'accord. Et à l'instar de nos anciens, Nathan et David, il aime beaucoup le faire, je vais terminer avec une citation. Il y a un livre qui s'appelle « Destiné pour le trône » qui parle de l'Église, par un auteur qui s'appelle Paul Bilheimer. Et c'est magnifique ce qu'il dit. Ok, c'est parti, je vais les lire. 10 lignes. Le résultat final est le but ultime des événements, d'éternité en éternité, le produit final de tous les âges, c'est l'épouse sans tache du Christ, unie à lui au repas des noces de l'agneau et assise avec son épouse céleste sur le trône de l'univers. Il, l'agneau, est entré dans le courant de l'histoire humaine dans ce seul but pour réclamer sa bien-aimée. L'Église, et elle seule, est la clé et l'explication de l'histoire. L'Église, lavée par le sang et sans tache, est le centre, la raison, est le but de toute l'œuvre créatrice de Dieu. L'histoire n'est donc que la servante de l'Église. C'est fort. Depuis avant la fondation du monde jusqu'à l'aube des siècles éternels, Dieu travaille à un événement grandiose, à une fin suprême, les noces glorieuses de son Fils, le repas des noces de l'agneau. Nous, on est invités. Prions. Seigneur, merci pour l'amour que tu as pour nous. Père, merci parce que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils pour nous. Merci que tu fais de nous l'épouse de ton Fils. Et je prie au nom de ton Fils Jésus que tu fasses une œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Que tu fasses en sorte que on tombe éperdument amoureux de toi, de ton Fils, de ton Esprit et de ton Église. Aide-nous, Seigneur, à marcher par la foi et dans la grâce qui est là. Transforme nos vies pour la gloire de ton Fils. Au nom de Jésus, Amen.